Encore une fois, au milieu de vous, alors j'espère que le micro, ça marche, que tout le monde entend. Parfait alors. Parfait. Comme ça a été dit, je ne sais pas si je l'ai dit, mais il y a une douzaine d'années, j'étais encore pasteur ici. Et à peu près à cette période, j'ai entrepris de faire une série de prédications sur les lettres aux églises de l'Apocalypse. Des lettres qui sont très intéressantes pour le regard qu'on peut porter sur les églises aujourd'hui encore. Eh bien, je ne me rappelle pas tout ce que j'ai pu dire. Mais parmi ces sept lettres, il y en a sept, il y en a une qui m'est bien restée à l'esprit. Et c'est celle que je voudrais lire pour ce matin. Alors le texte que je lis se trouve dans l'Apocalypse, donc, au chapitre 2, à partir du verset 8. Et je vais jusqu'au verset 11, même si ce n'est pas affiché. C'est assez court pour que vous puissiez en retenir la teneur. À l'ange de l'église de Smyrne, Smyrne qui est une ville qui se trouve dans l'actuelle Turquie, à l'ange de l'église de Smyrne écrit: voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui est mort et qui a repris vie. Je connais ta détresse, ta pauvreté. Pourtant, tu es riche. Et je connais les calomnies de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas. Ils sont une synagogue de Satan. N'aie aucune peur de ce que tu vas souffrir. Le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison pour que vous soyez mis à l'épreuve. Vous connaîtrez la détresse pendant 10 jours. Mais sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur n'a rien à craindre de la seconde mort. Voilà donc cette parole que le Seigneur peut faire grandir dans nos cœurs. L'étude de ces lettres, de ces sept lettres, révèle des détails parfois qui sont intéressants sur le soin, pour montrer le soin avec lequel elles sont écrites. Pratiquement, dans presque chaque lettre, il y a des détails et des allusions sur la ville qui est destinataire de ces lettres, comme pour attirer l'attention des lecteurs ou des auditeurs. Par exemple, il y a certains commentateurs qui ont relevé que pour le cas de l'église de Smyrne, dans une ville qui était appelée volontiers par les Romains Smyrne la fidèle, sans doute à cause de son attachement aux autorités romaines, eh bien le contenu de l'exhortation, c'est: sois fidèle. Bon, il n'y a pas qu'à Smyrne qu'on est appelé à la fidélité, bien sûr. Mais il est intéressant de constater que cette exhortation qui est adressée à Smyrne, qui recommande la fidélité, se trouve liée à la promesse d'une couronne. Hein? Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Justement, dans cette ville, tout le monde remarquait les grands bâtiments qui étaient en haut de la colline qui dominait la ville, qui avait donné à ce lieu le surnom de couronne de Smyrne. Sois fidèle et je te donnerai la couronne. À une ville qui est fidèle, qui est chapeautée par une couronne. Bien sûr, ce sont des détails, un peu comme des procédés d'écriture, qui peuvent montrer quand même combien le Seigneur est attentif au contexte local. Ceci dit, dans notre lettre, il y a quand même des choses plus importantes. Le cas d'une communauté qui se débat face à de grandes difficultés. Alors, il n'y a pas une église qui ne connaisse pas de difficultés. Il n'y a pas d'église parfaite. Mais au-delà de cette situation locale de Smyrne, eh bien, cette lettre, justement, peut être d'une grande utilité pour toutes les églises. Qu'il y ait des grandes difficultés ou qu'il y en ait moins, qu'elles ressemblent à celles de Smyrne ou pas. Et ce sur quoi je voudrais m'arrêter ce matin, c'est sur le caractère paradoxal de cette lettre, caractère surprenant. Et je commence par l'état des lieux. L'état des lieux, pas très réjouissant, hein. Détresse, pauvreté, calomnie. Voilà le lot quotidien des chrétiens de Smyrne. De quoi se lamenter. Alors, on ne connaît pas tous les détails, bien sûr, mais les détresses témoignent sans doute de l'hostilité que l'Église doit supporter. Hostilité dont l'essentiel vient de cette synagogue qui est qualifiée de synagogue de Satan. Alors, il ne s'agit pas des Juifs en général, hein, mais de ceux qui, à Smyrne, étaient à l'origine d'un harcèlement sans doute malveillant et qui faisaient le jeu de l'ennemi. Probablement par de la calomnie auprès des autorités. Voilà ce qui pouvait occasionner des détresses. Quant au mot qui est choisi pour qualifier l'église de Smyrne, ici rendu par pauvreté, c'est un mot qui est employé dans le Nouveau Testament en grec pour décrire le dépouillement du mendiant, de celui qui n'a rien. L'Église est comme un mendiant, elle n'a rien à Smyrne. Alors, dans ce cas-là, on peut parler sans doute d'un petit nombre de membres réduits, insuffisants, d'une situation matérielle sans doute précaire, inquiétante, et bien sûr d'un impact dans la ville à peu près insignifiant. Rien n'est dit des œuvres, puisque quand on n'a pas beaucoup de moyens, quand on n'a pas beaucoup de monde, c'est pas étonnant. Alors que quand on lit les lettres aux autres églises, on trouve la mention d'œuvres qui sont nombreuses. Quant au résultat de l'évangélisation, ils n'ont pas grand-chose de comparable avec ce qu'on trouve dans les lettres aux autres églises. Parce qu'il y en a à ce moment-là qui s'étaient développés abondamment. Et pourtant, devant un tableau aussi peu gratifiant, le Seigneur émet un jugement inattendu. Vous l'avez entendu, « Je connais ta pauvreté et pourtant tu es riche. » Première surprise. la vraie richesse, où se trouve-t-elle? Eh bien, pas où on la voit forcément. Elle se trouve ailleurs que dans le domaine du visible. En quoi consiste-t-elle? Eh bien, ce que le Seigneur apprécie chez les chrétiens de Smyrne, c'est leur persévérance fidèle, non pas leur résultat, mais leur persévérance dans les difficultés. Alors même qu'ils sont peu nombreux, alors qu'ils doivent vivre et penser à contre-courant, dans un milieu incompréhensif. Cette richesse dont parle le Seigneur a donc un rapport avec la fidélité, justement dans les moments difficiles. Mais je crois qu'il faut ajouter ceci, c'est que l'Église de Smyrne, forcée par les événements, elle est bien obligée de reconnaître qu'elle ne se suffit pas à elle-même. Justement, elle sait que sa richesse, elle se trouve ailleurs. Et elle l'a trouvée. C'est la richesse que le Seigneur lui a donnée. Et justement, on peut penser à cette béatitude que Jésus prononçait à ceux qui étaient en situation de manque. Heureux les pauvres! Se sentant pauvres, bien cette Église ne peut que compter sur la richesse de Dieu, de se reconnaître demandeuse, comme un mendiant, dépendante. La voilà, sa richesse. Mais il y a encore une autre surprise. Le Seigneur reconnaît cette vraie richesse, il la salue, il reconnaît la souffrance des siens. J'ajouterai même que sur les 7 lettres adressées aux églises, il n'y en a que 2 qui ne reçoivent aucun reproche. Eh bien, Smyrne est l'une des 2. Et c'est à remarquer encore. Alors, on aurait pu s'attendre à ce que le Seigneur accorde en retour quelques bénédictions qu'il délivre des chrétiens, les chrétiens de leurs difficultés, qu'il accorde des dons supplémentaires à l'Église afin que cette dernière grandisse, afin qu'elle se sente à l'aise, qu'elle puisse lui rendre gloire. Eh bien, rien du tout. Rien du tout. Les tribulations ne vont pas cesser. Tout va continuer comme avant. On annonce même des épreuves et même pour certains de la prison à cause de leur foi. Ça, le temps pour l'Église. Les chrétiens de Smyrne ne sont pas pistonnés. Être approuvé par le Seigneur, eh bien, ça ne conduit pas forcément sur des chemins faciles. La même lettre qui les approuve, ne leur permet pas de se reposer sur leur laurier après les épreuves. Alors, bien sûr, cette tribulation annoncée n'est pas présentée comme une punition, hein, ni comme une menace, contrairement à ce qu'on peut lire dans les autres églises. Ce qui veut dire qu'il nous faut réfléchir sur le sens à donner à l'endurance. Je ne pourrais que retenir cette exhortation à la fidélité. Et j'ajouterai la fidélité jusqu'au bout. Alors, non pas que l'Église de Smyrne était infidèle, hein, puisque, comme c'est dit et comme on l'a lu, elle souffrait pour le nom de son maître, mais comme pour toutes les églises, comme pour tout un chacun, la fidélité n'est pas l'affaire d'un degré à atteindre une fois pour toutes. Elle est à remettre chaque jour sur le métier. Être fidèle parce qu'il s'agit d'un combat de tous les jours et qu'il n'y a rien de vraiment acquis. Être fidèle dans l'épreuve aussi parce que c'est justement dans l'épreuve que la fidélité s'éprouve et qu'elle va se développer. On dit que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, mais c'est en étant fidèle que l'on devient de plus en plus fidèle. C'est souvent dans les détresses que l'on peut apprendre à compter sur Dieu et justement à découvrir ses vraies richesses. Alors, le Seigneur a permis des épreuves à ses bien-aimés à Smyrne, quelque chose qui peut rester obscur à nos yeux, mais dans la difficulté, il manifeste aussi son amour. Et cela, bien des chrétiens ont pu en témoigner depuis 2000 ans, et même un petit peu plus. Et un jour ou l'autre, eh bien, il peut opérer quand même une délivrance telle que nous en attendons. L'apôtre Paul le disait bien, ça c'est dans son épître aux Romains, aux Corinthiens, « Dieu qui est fidèle ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. » D'ailleurs, pour Smyrne, la tribulation ne durera que 10 jours, hein, c'est dit. Sens propre ou sens figuré, je ne sais pas, mais elle est limitée dans le temps et de toute manière, 10 jours, c'est quand même une brève période. S'entendre dire « ne crains pas, n'aie pas peur », eh bien c'est un défi à ce qui est visible, bien sûr, alors que tous les voyants sont au rouge. Mais c'est une invitation, la confiance qui est donnée par celui qui est là et qui va donner sa force et sa richesse au bon moment. C'est cette assurance qu'il donne à tous les siens qui sont dans l'épreuve. Alors, j'arrive bientôt au bout de ma méditation. Je voudrais pour terminer rassembler quelques éléments applicables à notre situation parmi les plus remarquables. Même si dans notre pays nous ne connaissons pas l'hostilité qui régnait à Smyrne. Et on ne va pas s'en plaindre, bien sûr. D'abord, premier point, à ceux qui pensent que si nous sommes fidèles, que si Dieu n'a plus rien à nous reprocher, nous allons être comblés de richesses, délivrés de toutes nos entraves, de toute épreuve, comblés de dons, eh bien, je crois qu'il faut dire, la bénédiction de Dieu, ce n'est pas celle-là. Même si ça peut être bénéfique, même si ça fait partie. Mais la vraie bénédiction de Dieu, ce n'est pas celle-là. Un évangile de la prospérité, d'une prospérité que Dieu offrirait en récompense à ses fidèles, ce n'est pas ça l'évangile. D'ailleurs, lorsque Dieu donne, c'est gratuitement. S'il donne, ce n'est pas parce qu'il nous doit quelque chose. Autre point, à ceux qui pensent qu'une église qui n'attire pas beaucoup de monde, qui n'a pas beaucoup de moyens, pardon, ou qui doit lutter pour sa survie, qui a mauvaise réputation, qui n'est pas parfaite, à ceux qui pensent qu'une telle église serait une église pauvre ou sans intérêt, eh bien que c'est peut-être, je dirais, que c'est peut-être une erreur d'appréciation importante. Parce que une telle église peut être, pas sûr, mais elle peut être aussi riche et peut-être plus qu'une grande église. Alors, pas de découragement si nous avons du mal à voir comment avancer ou si nous nous sentons atteints par la lassitude. Au contraire, il faut persévérer, même si nous avons des sujets de découragement et ça ne sert à rien de les nier. Ce qui a tous les traits d'une difficulté ou peut-être d'une malédiction peut cacher une vraie bénédiction. Justement, dans les épreuves, lorsqu'on n'a rien d'autre que ses faiblesses, c'est souvent là qu'on découvre la grâce et la fidélité divine et la vraie richesse. Ne crains pas ce que tu vas souffrir, disait le Seigneur à l'église de Smyrne, et d'ajouter que ces souffrances sont limitées dans le temps. Pour nous, comme pour les chrétiens de Smyrne, les épreuves ou les contrariétés, les situations inquiétantes ne sont pas à prendre pour des jugements. Elles ne veulent surtout pas dire que Dieu nous a abandonnés. Bien au contraire. Celui qui nous dit « ne crains point », c'est pas n'importe qui. C'est celui qui a vaincu la mort, qui s'est donné pour nous. Alors, ben nous ne sommes pas seuls. Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Eh bien, c'est avec cette certitude que je dis Amen.
Amen.